Suivez à peine sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bonjour à tous, bienvenue dans Appel sur l'actualité, c'est jusqu'à 9h temps universel, dans 30 minutes comme chaque jour, le débat, nous reviendrons aujourd'hui évidemment sur la situation au Burundi, tentative de coup d'état toujours en cours à Bujumbura avec des combats encore ce matin entre loyalistes et putschistes, une accalmie depuis quelques minutes et ce après l'annonce de la destitution du président Nkurunziza hier par son ex-chef d'état-major le général Niyombare, le chef d'état lui est coincé en Tanzanie. Alors que vous inspire cette situation? L'action du général Niyombare vous semble-t-elle légitime? Comment sortir le pays de la violence et éviter que ça continue de s'envenimer entre factions au sein de l'armée? Vous nous rejoignez au 33 9 693 693 70. Notre adresse email appel au pluriel @rfi.fr ainsi que nos comptes Twitter et Facebook. Mais avant, comme chaque jour, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité avec un premier auditeur en ligne. Il s'agit de Bertrand. Bonjour Bertrand.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes à Bruxelles en Belgique. Vous avez des questions concernant Israël. On vous écoute.
Ok. Bonjour la RFI. Bonjour Sébastien. Au début de ce mois de mai, j'ai suivi à travers vos ondes de la RFI que la communauté des juifs éthiopiens d'Israël, autrement dit les Falasha, ont manifesté pour réclamer plus de justice et la fin du racisme dont elles sont victimes. Alors sur ce sujet, j'ai trois questions à poser, s'il vous plaît.
On vous écoute.
La première est de savoir qui sont réellement ces Falasha. Ma deuxième question est de savoir si quelle est leur place dans la société israélienne et s'ils sont représentés en politique. Et la dernière, quelle est la mesure que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris pour améliorer cette situation?
Merci Bertrand. En ligne avec nous depuis Jérusalem, Muriel Paradon. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Alors vous êtes notre correspondante en Israël. Effectivement, tout cela est parti de la colère déclenchée par une vidéo, c'était fin avril, qui montrait deux policiers frappant près de Tel Aviv un soldat d'origine éthiopienne en uniforme sans raison apparente. Il y a eu des manifs de colère de la communauté éthiopienne à Jérusalem, à Tel Aviv, etc. Des affrontements avec les forces de l'ordre. Déjà, première question, un peu de pédagogie pour Bertrand. Qui sont les Falasha, même si peut-être le terme Falasha est un peu péjoratif, en tout cas, quelle est cette communauté de juifs éthiopiens?
Alors effectivement, ce sont des juifs d'Éthiopie. Leur origine juive reste un peu mystérieuse. Certains disent qu'il s'agirait de chrétiens qui se seraient rapprochés du judaïsme, d'autres qu'ils descendent du roi Salomon et de la reine de Saba, ou encore qu'il s'agirait de juifs d'Égypte et du Yémen qui auraient migré en Éthiopie. On ne sait pas vraiment. Les chercheurs estiment que ces hypothèses ne sont pas vérifiables et sont plutôt de l'ordre de la légende. Toujours est-il que les autorités religieuses israéliennes ont reconnu la judaïté de ces Éthiopiens un peu tardivement, et dans les années 80-90, les Israéliens les ont encouragés à venir s'installer en Israël parce qu'ils sont juifs. Des ponts aériens ont même été organisés en 1984 et 1991, et des dizaines de milliers de juifs éthiopiens sont donc arrivés comme ça en Israël. Aujourd'hui, ils sont 135 000 et ils ont la nationalité israélienne.
Alors justement Muriel, quelle est la place de ces juifs éthiopiens dans la société israélienne, sachant qu'ils se disent toujours victimes de racisme, de discrimination, et aussi est-ce qu'ils sont représentés en politique? Voilà, c'était la deuxième question de Bertrand.
Alors théoriquement, ils sont comme tous les Israéliens. Après l'arrivée des premiers migrants il y a 30 ans, leurs enfants sont nés sur le sol d'Israël. Ils font leur armée, ils travaillent, mais effectivement, ils s'estiment traités différemment. Ils subissent des discriminations dans l'éducation, le travail, le logement. Ils sont aussi victimes de violences policières, on l'a vu encore récemment, d'actes de racisme tout simplement. Et ils sont très très peu représentés politiquement. Par exemple, il y a un seul parlementaire d'origine éthiopienne dans l'actuel Knesset. Knesset, le Parlement israélien, un seul sur 120. Il s'appelle Avraham Nagisa, il est membre du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Dans une récente interview, justement, Avraham Nagisa appelait à une meilleure représentation des membres de la communauté éthiopienne dans les institutions israéliennes, pas seulement au Parlement israélien, mais aussi dans le gouvernement.
Alors, il y a eu des déclarations politiques après ces incidents, après ces violences. Je vais citer le président Reuven Rivlin, qui a lui reconnu des erreurs de l'État. Il a admis qu'Israël avait échoué à écouter la communauté juive éthiopienne. Il a dit « Les manifestants sont nos fils et nos filles, des élèves brillants, des soldats de l'armée. Nous leur devons des réponses ». La question de Bertrand, c'est quelle est la réponse du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour améliorer la situation de ces Israéliens d'origine éthiopienne?
Alors Benjamin Netanyahou a promis d'éradiquer le racisme contre la communauté éthiopienne, rien moins que cela, et il a annoncé la création d'une commission ministérielle pour tenter d'améliorer la situation des juifs éthiopiens. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein, c'était il y a une dizaine de jours, et vous savez que le Premier ministre est toujours en train d'essayer de boucler son gouvernement qui devrait être annoncé ce soir, donc ce n'est pas forcément le bon moment. En tout cas, la communauté éthiopienne reste mobilisée, elle a encore manifesté contre le racisme mardi soir à Haïfa, dans le nord d'Israël. Il faut rappeler que ce ne sont pas les premières manifestations de ces juifs éthiopiens. Il y en a eu dans les années 90, il y en a eu en 2012, toujours pour les mêmes motifs, pour discrimination. Et force est de constater que la situation n'a pas beaucoup changé.
Et Benjamin Netanyahou qui a également reçu Damas Pakada, le militaire éthiopien frappé dont on a vu cette vidéo qui avait déclenché les violences. Merci beaucoup Muriel Paradon en direct depuis Jérusalem. On salue Bertrand qui nous appelait depuis Bruxelles. 33 9 693 693 70. Une nouvelle question au standard. Fortuna est avec nous. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de RFI sur tout Congo-Brazzaville.
Voilà, vous êtes justement dans la capitale du Congo, Brazzaville même, mais vous aviez des questions concernant le Chili et la situation de la présidente Michelle Bachelet. On vous écoute.
Ouais, la présidente chilienne est depuis quelque temps sur la sellette, hein. Elle est accusée d'un scandale de corruption, et cela a même coûté le départ de 5 ministres. Alors, la première question, c'est de savoir le changement même du gouvernement va permettre la résolution de cette crise. Voilà, c'est ça la première question. La deuxième question est celle de savoir que pense le peuple chilien de la gestion de cette crise par leur présidente, en fait. La première question, est-ce que le remaniement ministériel va permettre de changer, de résoudre cette crise?
On a bien compris votre propos, Fortuna. Merci beaucoup pour vous répondre en studio avec nous. Lucille Gimbert, bonjour.
Bonjour.
De la rédaction en espagnol de RFI. C'est vrai que le mercredi 6 mai, la présidente a annoncé, c'était lors d'un programme télévisé, avoir demandé la démission de tous ses ministres. Finalement, 5 sont partis. Il y a cette question, est-ce que ça va résoudre cette crise de confiance à laquelle fait face vraiment la présidente, qui n'est pas au pouvoir depuis très longtemps d'ailleurs?
Exactement, 14 mois après avoir été élue avec 62% des voix, et pour la deuxième fois, la présidente du Chili, donc la socialiste Michelle Bachelet, affronte aujourd'hui les conséquences d'un scandale de spéculation immobilière, premièrement, dans lequel sont impliqués son fils et sa belle-fille, qui sont soupçonnés de trafic d'influence et d'utilisation d'informations privilégiées. D'autre part, il y a un autre scandale de corruption au Chili qui ébranle depuis plusieurs mois la classe politique chilienne. Il s'agit cette fois d'un possible système de financement illégal de campagne électorale. Sont impliqués le groupe Penta, un des plus grands groupes financiers du pays, et la compagnie chimique et minière Sokimich, qui est dirigée par un ex-gendre de l'ancien dictateur Pinochet. Cette affaire, pour le moment, a surtout touché l'opposition de droite, mais des noms de l'équipe de Bachelet sont aussi apparus dans l'enquête, et notamment celui du ministre de l'Intérieur qui a été débarqué cette semaine. Résultat, Bachelet dispose aujourd'hui d'une cote de popularité qui dépasse à peine les 30%. C'est son niveau le plus bas de ses deux mandats.
Et d'où cette annonce, surprise, la semaine dernière, du renvoi de tous ses ministres, et puis finalement le renouvellement lundi dernier de 5 d'entre eux.
Exactement, à noter aussi que 3 ministres ont quand même changé de portefeuille. Alors les deux départs principaux les plus emblématiques sont ceux des ministres de l'Intérieur et de l'Économie, et ils nous parlent en fait des priorités actuelles de Bachelet. Rodrigo Peña y Nillo, des 41 ans, symbole d'une rénovation générationnelle de la politique chilienne, et qui était un très très proche collaborateur de Bachelet a quitté le ministère de l'Intérieur en raison de sa mauvaise gestion de cette crise provoquée par les révélations concernant le fils de la présidence. C'est lui qui était aux commandes finalement au numéro 2 du gouvernement au moment des révélations parce que Michel Bachelet était en vacances. Peñalillo paye aussi l'apparition de son nom dans le deuxième scandale que je vous ai cité sur un présumé financement illégal de campagne. Peñalillo est remplacé par Jorge Burgos qui est l'ex-ministre de la Défense. C'est une personnalité de la vieille garde de la coalition majoritaire de centre-gauche. Burgos est plus modéré en particulier sur la forme. Donc ce nouveau numéro 2 du gouvernement chilien va avoir la tâche de désamorcer la crise et d'en éviter d'autres. Donc c'est une façon pour la présidente chilienne d'essayer de récupérer la confiance des Chiliens. Mais elle veut aussi, avec une autre nomination que je vais vous expliquer, essayer de faire face aux défis économiques du Chili. Depuis le retour de la démocratie, on n'avait jamais changé, depuis donc 90, on n'avait jamais changé un ministre de l'économie. Mais en ce moment, la croissance plafonne. En 2014, elle a atteint à peine 1,9%, son plus bas niveau depuis la récession de 2009. Et le patronat était braqué contre l'ex-ministre de l'économie, notamment en raison d'une réforme fiscale. La nomination donc de l'ex-président de la Banque du Chili, un ancien du FMI, Rodrigo Valdés, au ministère de l'économie. Donc un clin d'œil en direction des marchés et des secteurs d'entreprise.
Alors, est-ce que ce sera suffisant? C'est la dernière question de Fortuna Brazzaville. Que dit la population chilienne sur la façon dont Michel Bachelet gère cette crise?
Mais une grande majorité des Chiliens estiment qu'elle l'a mal gérée. Elle l'a reconnue elle-même d'ailleurs. Je n'ai pas eu la force de critiquer ce qui devait être critiqué, a-t-elle dit la semaine dernière à la télévision. Avec ce remaniement, Bachelet veut donc montrer qu'elle est à la barre, qu'elle a entendu les critiques des citoyens. Elle a aussi annoncé toute une série de mesures en faveur de la transparence et contre la corruption, notamment au niveau des partis politiques. Pour le moment, sincèrement, il est difficile de dire si ce remaniement va être suffisant. C'est ce que nous disait par exemple le politologue chilien Cristóbal Belolio hier. Les citoyens vont suivre de près cette nouvelle équipe et la juger évidemment sur les résultats. Mais cette crise de confiance va plus loin. Elle concerne toute la classe politique chilienne dont les liens avec les milieux des affaires ont été révélés. Un sentiment de suspicion s'est installé dans l'opinion. C'est ce que me disait hier le politologue Guillermo Holtzmann. Et les 60%, Sébastien, d'abstention aux dernières élections présidentielles nous disent la même chose. Cette crise au Chili n'est pas seulement celle de la présidente de Bachelet, c'est celle de tout le système politique.
Muchas gracias, Lucille Jimbert. Merci beaucoup. Merci à Fortuna qui nous appelait depuis Brazzaville au Congo. 339-693-693-70. Un nouvel auditeur en ligne. Il s'agit de Cana Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, dans l'ouest de la région parisienne. Bonjour Cana.
Bonjour Sébastien et bonjour à toute la diaspora africaine en France.
Alors vous avez des questions concernant l'accord de paix en cours de négociation au Mali entre Bamako et les rebelles du Nord. On écoute vos questions.
Oui, en effet, nous assistons depuis quelques jours des reprises de tensions au Mali et dans ce contexte-là, il y a un accord qui est prévu le 15 mai prochain entre les différents protagonistes. Et donc à cet effet, moi j'ai deux questions. Donc la première, c'est de savoir quel est le contenu de l'accord et quelles sont les garanties qu'on a données maintenant aux rebelles pour qu'ils aillent à cet accord-là. Et en deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui explique en ce moment le non-respect du cessez-le-feu par les deux parties.
Pour vous répondre, Serge Daniel est en ligne avec nous depuis Bamako. Bonjour Serge.
Sébastien, bonjour et bienvenue à Bamako.
Vous êtes le correspondant de RFI au Mali. Alors effectivement, cet accord, ce fameux accord avait été paraphé le 1er mars dernier à Alger par le gouvernement malien et ses alliés, qui doivent le signer formellement vendredi à Bamako. Si je me trompe pas, Serge, les rebelles ont promis de le paraffer aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie algérienne. Mais apparemment, ils ne devraient pas le signer vendredi à Bamako. En tout cas, ce fameux accord du 1er mars. Déjà, Serge, qu'est-ce qu'on trouve dedans?
Alors, c'est un accord de 30 pages, Sébastien. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est essentiel, c'est que l'accord prévoit, ça c'est une nouveauté, l'accord prévoit la création d'assemblées régionales dotées de pouvoirs très importants. Alors, l'assemblée régionale sera composée d'élus au suffrage universel. Donc, ce qui est nouveau, c'est que le représentant ou les représentants de l'exécutif dans les régions seront désormais des gens élus si tout le monde est d'accord avec. Alors, mais les rebelles souhaitaient, dans un premier temps, ils avaient des revendications indépendantistes, ils parlaient de l'indépendance du nord du Mali, ils n'ont pas obtenu cela, ils parlaient également d'autonomie, ils n'ont pas obtenu formellement cela, et ils voulaient qu'on appelle désormais le nord du Mali Azawad, qu'on reconnaisse l'Azawad comme étant une réalité politique. Alors, que l'accord dit non, l'Azawad c'est un nom, c'est une réalité plutôt humaine, donc c'est très différent. Donc il n'y a pas dans l'accord l'indépendance que réclamaient les rebelles, et dans l'accord, on parle également, c'est très important, de projets de développement du nord du Mali, des régions du nord du Mali, de pourcentages à attribuer pour le développement local, et c'est quelque chose de très très structuré, il y a plusieurs points, voilà l'essentiel de l'accord si on devait le résumer.
Alors, le 27 avril dernier, des milices pro-Bamako ont pris Menaka aux rebelles, comment expliquer la violation de ce cessez-le-feu?
Alors c'est simple, Sébastien, c'est-à-dire que vous connaissez la formule, on ne négocie pas en position de faiblesse. Ce qui compte, si vous voulez compter comme groupe armé, si vous voulez compter comme groupe armé, il faut maîtriser, il faut contrôler une partie du territoire national. Et évidemment, vous l'avez dit, une milice, des milices, ou du moins des groupes armés pro-gouvernement malien, ont pris le contrôle de Menaka, justement pour dire, nous existons, il faut compter avec nous, nous sommes incontournables dans le règlement de la crise malienne. Donc c'est une violation du cessez-le-feu, vous l'avez dit, et vous avez vu, immédiatement après, ça a commencé, les autres groupes armés de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, ont également violé le cessez-le-feu. Ils ont attaqué la localité de Diré, la localité de Goundam, la localité de Ténékou, la localité de Léré, mais avec une particularité cette fois-ci, ces groupes n'ont pas pu prendre le contrôle de ces groupes, de ces régions, de ces localités, parce que le gouvernement, l'armée malienne et les méharis, c'est-à-dire ce sont des gardes qui circulent à dos de chameau, ont fait face à la situation. Donc, violation de cessez-le-feu, pour terminer, pour pouvoir dire, nous sommes sur le terrain, nous sommes incontournables, violation de cessez-le-feu également, parce que évidemment, les négociations approchaient, le dernier round des négociations approchait, du paraphe et de la signature approchait, et il fallait montrer les muscles de part et d'autre.
Il nous reste très peu de temps, Serge, mais il nous reste encore des questions avec un dernier auditeur. Khalifa Traoré est en ligne depuis Nioro au Mali. Bonjour Khalifa Traoré.
Bonjour Sébastien et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On a déjà parlé de tout le contexte malien, mais je voulais qu'on entende vos deux questions, Khalifa Traoré. On vous écoute.
D'accord, Sébastien, j'ai deux questions. La première est la suivante. Quels sont les différents groupes rebelles concernés? Deuxième question. Y a-t-il des divergences entre les groupes et sont-ils tous d'accord entre eux?
Serge, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis toujours
Je vais vous demander un tour de force. Il nous reste une minute pour répondre. Déjà, un peu de pédagogie encore. Ces groupes rebelles, qui sont-ils?
Alors, il faut savoir qu'il y a quatre groupes essentiels. Il y a le HCUA, qui est le groupe le plus structuré militairement. Il y a le MLNA, qui est très médiatique. Il y a une branche du mouvement arabe de l'Azawad. Et la Convention pour le peuple de l'Azawad, qui est une dissidence du MLNA. À l'état actuel des choses, on ne sait pas qui va venir à Bamako. Ils sont tous à Alger, mais on ne sait pas encore qui va venir à Bamako, sachant qu'ils ont déjà dit, la plupart, qu'ils ne viendront pas à la grande signature de Bamako.
Alors, est-ce qu'ils sont tous d'accord entre eux ou est-ce qu'il y a des divergences par rapport à cet accord, la position à tenir?
Alors, il y a des passerelles entre tous ces groupes du nord du Mali, évidemment, mais il y a des spécificités.
D'accord, donc tout le monde n'est pas d'accord et on verra ce qui va se passer. On parle d'un paraphe aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'avait dit Ramtam Lamamra, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Et puis bon, bah ces groupes qui ont dit qu'ils ne se rendront pas vendredi à Bamako, on y verra plus clair dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Merci beaucoup Serge Danière d'avoir été en ligne depuis Bamako. Merci à Khalifa Traoré qui était lui depuis Nioro. On salue également Kana qui était à Saint-Germain en lait. Restez avec nous, dans quelques secondes on marque une petite pause, puis le journal, et on se retrouve de l'autre côté pour le débat d'un appel sur l'actualité consacré évidemment au Burundi, situation très volatile, très instable, avec une tentative de coup d'état à Bujumbura. Tout de suite.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Money, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.